Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis, bonjour. Je salue mon invité d'aujourd'hui, Alexandre Giraudot, qui vient de publier chez Economica un ouvrage particulièrement intéressant, Mythes et légendes économiques, 346 pages, 23 euros. Alors cet ouvrage a retenu mon attention, non seulement parce que sur le sujet c'est une référence, mais aussi parce que simultanément, cette publication s'est faite chez le même éditeur, en anglais, sous le titre de Money Tales. Et je dirais, ce qui est encore plus remarquable, avec un point de départ qui est en français et une deuxième publication en anglais. Lorsqu'on est italien d'origine et peut-être même de nationalité, on doit dire que ça mérite simplement d'être applaudi et salué. Alors, qui est Alexandre Giraudot ? Vous êtes chef économiste du troisième groupe mondial d'intermédiation financière Viel et compagnie, présidé par Patrick Combes, créateur et développeur du groupe. Vous êtes, cher Alexandre, un expert et un acteur opérationnel reconnu de la haute finance. Vous êtes d'une culture, je le disais tout à l'heure, parfaitement internationale. Après des études à Turin, Gênes et Berkeley, puis Salzbourg, vous avez travaillé à Turin, puis à l'international, Genève et enfin Paris. Et vous collaborez en outre, depuis deux décennies, je crois, à la revue Cyclope, le rapport annuel sur les marchés, sous l'autorité de Philippe Chalmin, qui est professeur à Dauphine. Enfin, cette parution démontre votre potentiel simultané de réflexion et d'écriture, ce qui est assez exceptionnel, car en effet, cumuler la puissance d'une réflexion d'intellectuel et l'efficacité opérationnelle reste rarissime. Comme aime à le rappeler Vincent Bolloré, on peut être unique pour trouver l'île au trésor et dangereux pour conduire la manœuvre d'approche. Ce que vous faites démontre que vous n'êtes pas dans ce cas. Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Merci de votre participation à cet échange, au fil des pages, de votre ouvrage. Il s'agit d'une fresque monumentale restituant en perspective mythes, légendes et faits économiques. On connaît l'importance des croyances pour l'émergence des concepts, pour l'histoire, la philosophie, l'économie. Tous ces domaines en apportent le témoignage. Aussi, ce cocktail d'anecdotes, d'aventures, de mythes, d'additions, de hasards et de réflexions stratégiques montre que les échanges internationaux reposent non seulement sur des légendes, mais aussi sur des mythes et des réalités qui, aujourd'hui, se retrouvent dans l'actualité. Alors, je voudrais, à ce point, commencer par vous poser une première question, qui est de vous dire quelle est, à la base, l'idée qui vous a conduit à entreprendre ce travail dont on imagine qu'il était particulièrement lourd et en tout cas qui témoigne d'une culture assez exceptionnelle.
Bien, merci beaucoup. Je suis une personne plutôt curieuse, première chose. J'ai donc eu la chance d'avoir étudié quand j'étais à Berkeley avec un professeur d'histoire économique exceptionnel qui s'appelait Tupol. J'ai commencé à écrire ce type de petites brèves sur l'économie parce que je publie pour les clients de notre compagnie, qui sont essentiellement des grandes banques, des hedge funds, des grosses institutionnels, une lettre quotidienne plus une lettre qui est disons, hebdomadaires, et de commentaires et d'idées sur l'évolution de l'économie et sur, naturellement, sur les prix. Et donc, j'avais ajouté une petite page sur des curiosités qui me semblaient très très proche, tout en étant des curiosités historiques, proches de la réalité du moment. Et après, je me suis dit, vu que j'avais quelques lecteurs qui étaient intéressés, pourquoi pas de réécrire tout ça avec un petit peu plus de détails, et essentiellement commencer, je ne vais pas dire par le commencement du monde, mais presque, et terminer, j'avais terminé il y a l'année passée, donc avec la publication du calendrier Pirelli, qui est un... quelque chose de particulier, parce que c'est un calendrier totalement différent. C'est, je dirais, une publication avec un gros contenu sémantique. C'est pas un calendrier pour camionneurs, mais c'est quelque chose de beaucoup plus artistique. Donc, j'ai publié donc en français. Après, il y a eu un éditeur américain qui a suggéré de traduire le livre aux États-Unis. Donc j'ai éliminé quelques chapitres et j'ai écrit une centaine de pages supplémentaires. Et voilà, maintenant, le livre américain est en train de sortir à New York.
D'accord, alors vous nous direz ce que vous avez apporté de complémentaire par rapport à la première parution en français. Je suppose que sur le fond, il ne doit pas y avoir grande modification, mais peut-être des épisodes complémentaires.
Voilà, par exemple, la crise des chiffons qui avait frappé donc l'industrie du papier quand il y avait des graves, très graves épidémies. Par exemple, le premier essai d'un marché commun européen qui s'est fait avec la Ligue hanséatique. Par exemple, un grand cas d'espionnage entre, naturellement, Venise, Louis XIV et les Flamands, qui était donc l'industrie très très importante à l'époque de la dentelle, avec toutes les techniques qui avaient été utilisées pour essayer de importer de façon naturellement très très secrète les grands secrets de Venise et la France. D'accord. Avait été très 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 bon dans ça, parce que Burano et Murano avaient perdu le monopole de la production des glaces et de la dentelle.
D'accord. Donc, ok, des compléments que tous les anglicistes apprécieront. Alors, on peut dire que l'histoire est un éternel recommencement. Mille et une fois, les faits se reproduisent. Et donc, si vous voulez bien, à travers donc l'ensemble des anecdotes, des mythes, des légendes que vous rapportez dans ce remarquable ouvrage, on va en extraire quelques-uns sur lesquels j'aimerais qu'on puisse échanger. Je tiens quand même, avant d'aller plus loin, de prendre une minute, et je pense que nos lecteurs apprécieront, pour donner un aperçu de votre écriture, qui est très aérée et très riche, notamment dans votre introduction. Je vous lis. « Voyager rend curieux. Certes, l'amiral avait mille fois raison, même s'il a commis l'erreur la plus heureuse de l'histoire. » C'est aussi la curiosité qui a stimulé l'écriture de ce livre. Il s'agit d'un cocktail de petits chapitres sur de nombreux sujets qui, bien sûr, ne peut pas être exhaustif. Il invite les lecteurs à découvrir les mythes, les légendes et les réalités des faits économiques dans l'histoire. L'éventail est vaste, de la route de l'obsidienne, avant l'âge du bronze, au développement des conteneurs favorisés par la guerre du Vietnam, des pièces de monnaie frappées par le temple de Delphes, au Real de Aocho, qui a financé le siècle d'or de l'Empire espagnol, de la lutte spasmodique de Venise pour garder le monopole des épices et du verre à l'espionnage qui a entouré la production des cartes géographiques, de la route de la soie, par laquelle transitent aussi les germes, la grande peste noire, aux premières grandes crises économiques mondiales de la fin du XIXe, du rôle stratégique des pirates et des corsaires dans la guerre économique se déroulant dans le bassin des Caraïbes aux abattoirs de Chicago qui ont inspiré Henry Ford. Beaucoup de petits chapitres sont dédiés à l'époque de la Renaissance et des grandes découvertes géographiques et scientifiques quand la Terre devient finalement ronde. C'est probablement un des moments, vous ajoutez, les plus féconds de l'histoire. Les hommes se battent avec plus de force contre les dogmatismes fanatiques et l'ignorance. Ils prennent des risques plus importants pour aller chercher de l'or et des épices. Ils montrent une curiosité scientifique et technologique renouvelée. Ils créent des structures nouvelles pour promouvoir le commerce mondial. Mais hélas, ils organisent la gestion de l'esclavage sur une vaste échelle avec un système presque industriel et préparent les bases du colonialisme occidental. Je crois que cette introduction résume parfaitement la richesse des témoignages que vous apportez dans votre parution. Alors, revenons maintenant sur quelques éléments qui nous rappellent l'actualité du passé, qui rappellent le présent. Première question, le financement de l'économie américaine par les surplus mondiaux d'épargne, surtout asiatique, l'argent en métal, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous rappeler sur ce point ?
Bien, si nous regardons les flux mondiaux des capitaux actuellement et aussi les flux des biens réels, on voit un bassin énorme qui est le bassin asiatique qui est net exportateur de capitaux et net exportateur de produits, produits à des bas coûts de main d'œuvre, vers le reste du monde, mais surtout vers un bassin qui est net importateur de capitaux et de biens, et c'est-à-dire les États-Unis. Ce type d'accord entre ces deux macro-régions est un accord qui est d'intérêt mutuel pour l'instant, jusqu'à quand une des deux perdra l'intérêt à continuer ce type de gros flux. Et on voit un petit peu ces jours-ci, avec la chute du dollar, avec l'appétit des investisseurs internationaux pour le dollar, à garder le dollar. Donc, ils ont commencé à le vendre, les banques centrales aussi se sont mises. Cela, ça signifie que peut-être on est en train d'assister à une phase de rediscussion de ce type d'accord. Et cela me fait penser un petit peu à un équilibre aussi qui était très particulier, qui existait vers 1550, c'est-à-dire, mettons, le 16e siècle, quand les grands découvertes d'argent métal dans le continent précolombien, donc essentiellement à Potosí et dans la région mexicaine, avaient permis donc d'augmenter l'offre d'argent métal à l'époque. L'Europe était un producteur d'argent métal, mais on avait toujours besoin de ce type de liquidité. Et donc, cet argent partait traverser les Andes, traverser le détroit de Panama, traverser les attaques des pirates qui, naturellement, exerçaient une grosse pression économique contre l'Espagne dans la région des Caraïbes, devait traverser l'océan avec tous les risques de climat et arriver finalement vers Séville. Mais à Séville, à grande surprise, il était déjà dépensé par la cour impériale de Carlos V et de Felipe II. Et donc, très souvent, cet argent ne restait même pas dans la région espagnole, mais partait directement sur les ports du nord de l'Europe, vers Livourne, vers Gênes, vers Venise. Et encore une fois, cet argent partait destination, naturellement, le Moyen-Orient et l'Asie, qui sont deux régions qui n'avaient pas d'argent à l'époque, et qui étaient donc grosses demandeurs d'argent. Et nous, on importait, et donc on avait une balance commerciale négative, fortement négative, parce qu'on importait essentiellement beaucoup d'épices, des soies et des porcelaines, et on payait avec très peu de biens, parce que sauf un petit peu d'armes, sauf un petit peu de livres et un petit peu de corail, ce monde n'achetait presque rien du monde européen. Et donc seulement l'argent pouvait compenser ce flux permanent.
Et donc la balance était
Et donc la balance était finalement la balance des paiements retournée en équilibre, d'accord, mais grâce à cet argent espagnol, d'accord, qui n'était pas espagnol, mais qui était du Pérou, oui, et le riche Pérou de l'époque. Et seulement quand on a commencé à avoir beaucoup moins d'argent disponible, on a eu un choc majeur pour l'économie naturellement espagnole, qui n'avait pas su, d'un côté, faire des investissements de type proto-industriel pour satisfaire ses besoins, et qui avait vécu, un petit peu comme l'Amérique, à un niveau bien supérieur à ses propres ressources, parce que c'est des ressources qui arrivaient de l'extérieur. Donc, rien restait en Espagne, et ça, c'est peut-être le siglo d'or espagnol, était un grand moment culturel, historique de cette macro-région. Mais très rapidement, il y a eu une décadence très, très, très douloureuse pour l'Espagne, qui n'a pas pu continuer ce type de vie extrêmement sophistiqué.
D'accord. Donc, ce que vous dites, c'est que cet exemple montre que ces déséquilibres, ces rééquilibrages mondiaux sont pas seulement dans l'actualité, mais dans l'histoire.
Et surtout instables.
Et tout à fait instables. Alors, vous dites aussi, à un moment donné, vous parlez des grandes routes du pétrole, notamment route de la soie. Une remarque brève sur ce point.
Voilà, si vous pensez bien, en ce moment, nous avons des routes du pétrole qui sont extrêmement importantes, première chose, pour les flux, avec tout ce qui comporte...
C'est quoi les routes du pétrole aujourd'hui?
Bah, essentiellement, disons, le Moyen-Orient, Méditerranée et Hormuz et Suez, qui est une route qui traverse un monde très délicat sur le plan de politique. Et par hasard, vous voyez que dans ces régions, il y a énormément de bateaux militaires qui protègent ces routes contre tout déséquilibre de n'importe quelle origine. Et c'est un transfert donc de capitaux d'un côté, de côté de biens essentiels. Et ça me fait penser un petit peu à la route de la soie, sur laquelle naturellement on transitait pas seulement la soie, mais il y avait des médicaments, il y avait la culture, il y avait d'autres produits. Mentionné par exemple l'or et l'argent. On a trouvé en Chine des monnaies de l'Empire romain, par exemple. Rome, toutes les matrones romaines devenaient folles pour un morceau de soie, dont le coût avait le même coût que le poids de l'or, hein, donc avec un symbole très important de pouvoir dans ce...
Et ces routes créent une forme de solidarité, bien entendu.
Et créent exactement. Hein, en effet, vous voyez, si on pense à un moment magique de la route de la soie, c'est-à-dire quand on a quatre empires, c'est-à-dire l'empire des Han, qui est dans la région chinoise, après il y a l'empire indien du nord, après il y a l'empire des Parthes, et après l'empire romain. Ces quatre empires font un petit peu de scaramouche, naturellement. Se chamaillent un petit peu sur les frontières, mais in fine, l'intérêt de ces quatre empires était de dialoguer beaucoup, de toucher des revenus fiscaux, de permettre ces échanges. Et c'est un moment magique pour ces quatre empires. Par hasard, nous prenons l'histoire de ces quatre empires. Ça commence à pratiquement à moins 200 et termine à plus 400, le moment magique de leur croissance. Tous ces empires ont une crise au même moment, et c'est une crise en plus qui probablement a une origine, et dans la version anglaise j'en parle, une origine de caractère naturel, c'est-à-dire un désastre très important, un changement de climat. Et donc vous avez l'empire des Han qui tombe en miettes pratiquement vers la fin dans l'année 200. Vous avez Rome aussi qui a la première très sérieuse, très grave crise financière du IIIe siècle. Vous avez les Parthes aussi qui perdent le contrôle de leur région.
Des crises systémiques.
Des crises qu'on pourrait traiter à l'époque de systémiques, parce qu'en effet, ils touchent toute une bande très importante de développement économique, de quatre empires qui étaient très développés, et qui tombent ensemble. La cause est plutôt de type naturel. Mais naturellement, la chute d'un empire implique un petit peu comme un jeu de domino aussi la chute de...
Alors, vous nous donnez des frissons, parce qu'on pense immédiatement à la crise financière qu'on vient de connaître il y a peu de temps. Et vous savez qu'il y a une... des publications abondantes sur le sujet, notamment la crise des années 30 est devant nous. Alors vous vous dites à plusieurs reprises, en prenant des exemples dans l'histoire, que vous n'êtes pas convaincu que c'est la crise des années 30 qui est devant nous, mais que par contre vous trouvez un certain nombre de similitudes avec la crise, avec la panique de 1907 et la création de la Fed. En page 268. Exactement. Alors c'est quoi donc de façon très 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 schématique, parce que je sens que vous êtes inépuisable et donc je vais être obligé de vous recentrer. C'est quoi alors donc c'est selon vous ce qui ferait plus penser à 1907 qu'en 1929?
Voilà, je dirais les deux natures très identiques d'une crise de caractère bancaire. Maintenant, nous sommes en train de vivre une crise de type bancaire, pas de type financier.
Ouais.
En 1907, on a eu, pour des causes très 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 différentes, vont du tremblement de terre de San Francisco en 1906 à des problèmes de structure du système américain, à la spéculation sur le marché du cuivre. Toutes ces choses, tous ces éléments ont créé une crise de liquidité extrêmement importante avec les banques qui ont perdu la confiance entre elles, donc les banques n'arrivent plus à se prêter de l'argent, qui est un petit peu ce que nous sommes en train de vivre tous ces jours-ci, avec des moments très délicats. Et la solution qui avait été donc proposée par JP Morgan, donc le grand financier américain, vu que la Fed n'existait pas encore, il avait trouvé avec d'autres grands collègues de notre banque concurrente, mais qui face aux difficultés, face aux dangers, avaient mis ensemble leur capacité financière. Donc ils avaient créé des solutions, c'est un petit peu complexe, mais des solutions pour donner de la liquidité au système. Actuellement, et c'est d'aujourd'hui la nouvelle, la Fed, après la décision d'hier soir de baisser les taux de 25 points de base,
ouais,
a fait des accords qui ont été annoncés ce matin à 9h, heure américaine, avec les autres grandes banques, les grands argentiers du monde, et des accords de swap dans lesquels, en pratique, les banques donnent de la liquidité au système pour absorber ce type de crise et donc permettre aux banques de ne pas dépendre des autres banques. Mais c'est exactement la même solution. Donc les causes sont très semblables et la solution, une fois de plus, est la même.
Mais alors, est-ce que vous restez, vous, maintenant, à la lumière des dernières décisions, notamment de la Fed, relativement optimiste sur la capacité de maîtriser cette crise financière dont certains, on va dire, peut-être dans des moments d'égarement, considèrent que c'est une crise sans précédent?
Alors, vous savez, quand il y a une crise, il y a toujours des Cassandra. Par
D'accord,
définition.
Tout à fait. Oui.
C'est clair que cette fois, nous avons ouvert la boîte de Pandore et on a été tellement curieux qu'on a voulu voir ce qu'il y avait dedans. Et en effet, la création de tous ces SIV, donc des instruments liés au marché immobilier, a été découverte et avec tout le danger, parce que il y a des financements qui ont été octroyés à des personnes qui, on savait déjà au début, qui avaient des problèmes extrêmement graves pour rembourser. Et donc, les gens savaient parfaitement ça. Sauf qu'il y avait une euphorie sur le marché américain, sur l'immobilier. Donc, ces personnes qui pouvaient acheter leur maison pouvaient la revendre à un prix bien supérieur et rembourser de façon très, très facile ce type d'emprunt. Naturellement, avec la crise de l'immobilier, les arbres ne montent jamais toujours au ciel. On a eu un problème majeur parce que ces personnes se sont trouvées, et voilà pourquoi on l'appelle subprime, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas les conditions suffisantes.
Tout à fait, pour faire face.
Les conditions ont changé, empiré pour ces personnes, et donc les gens, les banques ont découvert qu'une série de crédits ne seront peut-être pas payés. Ils ont découvert vraiment le contenu de vase de Pandore. Naturellement, il y a eu un problème majeur parce que il y avait un nombre de banques extrêmement élevé qui est impliqué. Beaucoup de clients ont dit aux banques, je veux plus ce type de papier qu'on appelle papier toxique. Donc, les banques ont dû mettre dans leur bilan ce type de papier à risque.
Les porter, comme on dit.
Pour les porter, comme on dit. Donc, trouver d'un côté des capitaux, le côté alourdir d'une façon très dangereuse leur bilan. Et la seule solution qu'on peut envisager est donc une action coordonnée des banques centrales. Peut-être, on a déjà vu une baisse des taux sur le marché américain pour aider surtout l'économie réelle. Et maintenant, disons, l'équation à résoudre pour la prochaine année est exactement, est-ce que l'économie réelle va subir de plein fouet ce type de...
Mais à aujourd'hui, on pense plutôt que non.
Pour l'instant, disons, il y a une certaine dose d'optimisme Et je dirais, grâce à quelque chose qui s'appelle le bassin asiatique, c'est-à-dire leur développement commence à être presque indépendant, presque autonome, presque. Naturellement, ils dépendent beaucoup des exportations. Mais c'est pour la première fois que nous voyons depuis quelques siècles que le bassin asiatique peut aider d'un côté parce qu'ils ont les capitaux, voire par exemple les derniers financements, les achats d'une partie du capital du BS par la Banque centrale de Singapour.
C'est donc, ça. Mais c'est un pôle de stabilité en quelque sorte.
Et c'est un pôle de stabilité et d'un côté financier parce qu'il y a réellement l'argent dans les capitaux. Mmh. Et de l'autre côté aussi, il y a un pôle de demande permanente. Très important, imaginez que si vous additionnez la population de la Chine, Chine plus Inde, c'est 2,4 milliards de personnes. La Chine, c'est pile 20% de la population mondiale.
D'accord. Donc, tout ceci, cher Alessandro, vous rend plutôt optimiste. Et écoutez, je crois qu'on va rester sur cet espoir. Je rappelle que vous traitez bon nombre d'autres aspects qui sont dans l'actualité, la crise énergétique, les entreprises multinationales, les capitaux, les hedge funds, les nouveaux marchés et les centres de production. Donc, vous avez fait assez facilement le lien, et vous l'avez démontré, entre l'histoire et le présent. L'histoire, les mythes, les croyances et légendes nous enseignent les leçons d'un passé déjà présent qui structure notre avenir, celle de l'économie, celle de la planète finance et de la mondialisation. Il me reste tout simplement à vous dire une nouvelle fois merci pour avoir accepté le principe de cet entretien et de rappeler votre parution. Mythes et légendes économiques chez Economica et simultanément qui paraît en anglais sous le titre de Money Tales aussi chez Economica. Cher Alessandro, encore une nouvelle fois, merci et bravo pour ce que vous avez fait.